Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Navigateur exceptionnel, génie militaire, mais aussi vindicatif et cruel. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Pierre Lemoyne d'Iberville, corsaire, flibustier et conquérant des mers.
Pierre Lemoyne d'Iberville est le plus grand marin et le plus grand soldat qu'ait produit la Nouvelle-France. À l'âge de 13 ans, il commence son apprentissage sur les vaisseaux dans la marine française. De retour au Canada, il s'affaire à déloger les Anglais des voies d'accès de la Nouvelle-France. Les prouesses en Acadie, à Terre-Neuve, dans la baie d'Hudson, paraissent quasi invraisemblables.
Les qualités et les vertus de Pierre Lemoyne d'Iberville à l'émission Le sel de la semaine, c'était pour élire le nouveau héros canadien, 27 mai 1968. On l'a affublé de tous les styles propres aux épopées. Héros national, il est celui qui a combattu avec succès les Anglais. Sollicité à la fois par Frontenac et par le roi, il a guerroyé sans relâche, toujours hanté par le désir d'offrir l'Amérique du Nord à la France. À la fois pirate, corsaire et commerçant, d'Iberville redoutait la perte d'un vaste continent, de la baie d'Hudson à la Louisiane, des eaux froides du Nord aux mers turquoises des Caraïbes.
Il s'agit de trois voiles anglaises. Elles sont sous le vent et ne répondent pas à nos signaux. Si j'allais leur refuser le combat, je sais que vous m'en empêcheriez et vous auriez raison. Vous, mes fiers officiers, et vous, vaillants compagnons, miliciens et matelots, nous allons les braver et leur montrer de quoi nous sommes capables. La mer d'Hudson nous appartient autant qu'à eux, ces Anglais qui s'entêtent à contester nos conquêtes. Depuis 10 ans, ils s'amusent à un détestable jeu de bascule. J'ai promis à Monseigneur de Pontchartrain que nous ferions cesser ce jeu de bascule et que la France aurait sujet d'être satisfaite de notre conduite. Êtes-vous homme à trahir le roi?
Vive le roi!
Écoutez-moi, si ces trois voiles parviennent au fort Nelson, ce sera pour nous la déroute et la défaite. Il faut nous préparer à les combattre et les mettre hors d'état d'entrer dans la rivière et de secourir le fort. Et nous pouvons le faire!
Nous le pouvons!
Un extrait de la grande série télévisée d'Iberville mettant en vedette Albert Miller dans le rôle du célèbre navigateur, 1967. Alors pour nous en parler, mon invité, Martin Fournier, il est historien, spécialiste de la traite des fourrures et des relations entre Français et Autochtones. Il est aussi romancier, auteur de plusieurs ouvrages sur Radisson. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Alors Pierre Lemoyne d'Iberville, on l'a entendu ici, hein, il fait partie de ces grandes figures et chaque fois qu'on parle de lui, tout est ponctué de superlatifs. Hein, le plus grand capitaine de son temps, le corsaire le plus redoutable, des exploits militaires absolument spectaculaires. Alors, quelle est la part de mythe quand on parle d'Iberville?
Le côté intrépide, victorieux, courageux, tout ça est vrai. On ne peut absolument pas nier le fond historique véritable. Il a accompli plusieurs exploits et donc on peut, à juste titre, le qualifier de héros. Mmh. C'est vraiment un militaire de premier plan, un excellent marin et un meneur d'hommes. Il a joué un rôle important dans la lutte des Français, de l'Empire français, contre l'Empire anglais, et plus spécifiquement au niveau de la Nouvelle-France. Donc, il a réussi à conserver une certaine robustesse de la lutte du petit nombre de Français qui vivaient sur les rives du Saint-Laurent. Oui. Donc, on peut certainement le qualifier d'un des plus grands héros, sinon le plus grand héros, de la période de la Nouvelle-France, dans ce sens de courage, d'intrépidité et de victoire.
Oui. Avec une vision aussi, on va y revenir, mais parlons d'abord de ses origines. Hein. Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est un Canadien. Il est né en Nouvelle-France le 16 juillet 1661 à Ville-Marie, donc aujourd'hui Montréal. Et il vient d'une illustre famille.
Oui, son père est un des pionniers de Montréal. Et il a été extrêmement influent dans le positionnement de Montréal au niveau des alliances autochtones. Donc, il y avait quand même plusieurs nations autochtones qui se sont alliées aux Français. Et Charles Lemoyne, donc, a été un excellent médiateur pour que les Français comprennent les besoins, les attentes des Autochtones et que lui, de l'autre côté, fasse comprendre aux Autochtones que c'était un échange gagnant-gagnant. Donc, à ce niveau-là, il est très influent. Et cette alliance-là a un volet commercial et un volet militaire.
Oui. Commercial parce qu'il va faire fortune dans le commerce des fourrures.
Oui, exactement. Donc, il va être un acteur très important du développement du commerce des fourrures et il va devenir un des habitants les plus riches de Montréal.
Oui. Parce que toute l'économie, à ce moment-là, repose à peu près là-dessus, sur le commerce des fourrures.
Le commerce des fourrures est vital pour la Nouvelle-France jusqu'à la fin du 17e siècle. C'est le seul apport économique majeur. C'est la base du développement de la colonie.
Alors, d'où l'importance de certains territoires, notamment la baie du Tson, que se disputent Français et Anglais, et Pierre Lemoyne d'Iberville va y prendre part. Mais, un mot sur sa carrière militaire, parce que très jeune, il apprend la navigation. Il est déjà capitaine à 20 ans, et dès lors, début vingtaine, il va multiplier les voyages comme ça entre la France et la Nouvelle-France. Toute sa vie, là, il va traverser l'océan comme ça.
Oui, et il est aussi actif en France, aussi présent en France qu'en Nouvelle-France. C'est un des Canadiens qui est le plus souvent en France dans les cercles du pouvoir. Donc, il a peut-être un charisme ou peut-être une façon de s'exprimer, une façon de convaincre les dirigeants français de ses projets, de sa valeur. Et il va être très écouté et on va lui confier des commandements et on va accepter un certain nombre de ses projets. Et donc, honnêtement, pour un Canadien à l'époque, c'est assez exclusif.
Oui, tout à fait. Il faut le mentionner. C'est mal vu à l'époque. Hein? On n'est pas au même niveau entre un Canadien et un Français.
Voilà. Il y a une différence de culture et de réputation.
Oui, tout à fait. Bon, on va le voir plus tard. Hein? Il rêve d'offrir l'Amérique du Nord au roi de France. Mais qu'est-ce qu'il va en faire exactement? C'est quoi sa vision de la Nouvelle-France, de ce vaste territoire-là?
Donc, à son époque, dès sa jeunesse, les Français sont très bien implantés dans les Grands Lacs. Et à peu près au même moment où il commence sa carrière, les Français découvrent le Mississippi, explorent le Mississippi. Et à la fin du 17e siècle, il y a déjà des implantations françaises à partir de la Nouvelle-France, la vallée du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs et jusqu'à la jonction du Missouri et du Mississippi, la ville de Saint-Louis aujourd'hui. Donc, il y a déjà un axe important. Et à l'époque de Pierre de Bois d'Iberville, le gouverneur Frontenac est en train de monopoliser la traite de fourrures dans les Grands Lacs et dans le Mississippi. Et les Canadiens ont un sentiment un peu de frustration parce qu'ils ont développé la traite des fourrures et là, ils voient le profit leur échapper. Donc, ils développent à ce moment-là une vision de développer la traite de fourrures vers le nord. On sait depuis longtemps qu'il y a des possibilités et les premiers à réussir à exploiter ce potentiel-là, c'est Radisson et Desgroseilliers, donc qui atteignent la baie James en pionnier en 1668. Mm-hmm. Et à partir de là, donc quelques années plus tard, les Français de la Nouvelle-France se disent que voilà, le potentiel est là, il est concret, il est réel. Et pour contrebalancer l'effet de Frontenac, on va aller développer, nous les Canadiens, on va fonder une compagnie, c'est Charles Lemoyne avec d'autres qui fondent la Compagnie du Nord pour exploiter les fourrures de la baie du Tson. Et à partir de ce moment-là, on veut concurrencer ou déloger les Anglais qui se sont implantés les premiers à la baie du Tson.
Oui. Encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions hein, pour déloger les Anglais. Parce qu'il va déplorer toute sa vie Pierre Lemoyne d'Iberville avec une certaine vision d'avenir aussi. On va écouter ce qu'en disait l'historien Guy Frégaud à notre radio. C'est au micro de Jean-Claude Cardinal en octobre 1968.
Pierre Lemoyne d'Iberville n'est pas avant tout un homme politique. Mais j'ai eu l'occasion dans ce livre-ci d'étudier la carrière des hommes politiques qui sont passés sur la scène canadienne entre 1700 et 1713. Et j'ai remarqué que si l'on cherche des idées politiques, naturellement, les gouverneurs, les intendants avaient des idées, mais si l'on cherche des idées politiques fondamentales, ce n'est pas chez eux, ce n'est pas dans leurs écrits, ce n'est même pas dans leur action qu'on va retrouver ces idées, c'est dans l'action et c'est dans les écrits de Pierre Lemoyne d'Iberville. Et je pense que la meilleure tête politique du Canada à ce moment-là, c'était Pierre Lemoyne d'Iberville. Pourquoi? Parce qu'il a été d'abord extrêmement réaliste. Il était très difficile pour un Canadien ou pour un Français d'imaginer que la France pourrait être un jour humilié devant l'Angleterre que la France pourrait un jour perdre toute son aile américaine, étant donné qu'à ce moment-là, la suprématie française était aussi évidente, était aussi somptueuse, si vous le voulez, que la suprématie américaine à ce moment-ci. Et malgré cela, simplement avoir le mouvement des populations, Pierre Lemoine d'Iberville a prédit que dans moins de 100 ans, l'Empire français d'Amérique tomberait s'il n'y avait pas une politique de redressement et une politique de redressement à entreprendre immédiatement au moment où il parlait.
Et on connaît la suite, hein? L'avenir va lui donner raison puisque la France va perdre à terme son immense territoire en Amérique du Nord. Parlons de ses exploits militaires parce qu'ils sont très nombreux. D'abord au Nord, hein? Comment il s'illustre à la baie James et à la baie du Tson?
Ses exploits les plus connus, c'est en tant que marin, lorsqu'il va réussir à vaincre quelques navires anglais qui viennent approvisionner le fort York, donc à l'embouchure de la rivière Nelson, très au nord, dans la baie du Tson. Mais son premier exploit, c'est celui qu'il accomplit à partir de Montréal, une expédition terrestre à partir de Montréal, qui a pris, je crois, 82 jours pour faire le trajet de Montréal jusqu'à la rivière Moose.
Imagine donc à pied puis en canot. Là.
À pied et en canot, extrêmement laborieux, très difficile, un trajet. C'est un exploit en soi de faire ce trajet-là, qui va être abandonné assez rapidement parce que c'est trop difficile, trop exigeant. Mais ce groupe de 70 Canadiens et de 30 soldats français, donc ils vont faire le trajet aller-retour à 3 ou 4 reprises pour circuler entre les conquêtes de la baie James et Montréal. Mais pour en revenir à Pierre Lemoine d'Iberville, donc, il s'illustre à ce moment-là. Il est un officier de cette troupe-là. Il ne commande pas l'expédition. Mais il va s'illustrer par un courage exceptionnel. Par exemple, il pénètre dans le fort anglais à la rivière Moose seul parce que les Anglais ne se méfiaient pas. Ils ne s'attendaient pas, dans une région aussi reculée, d'avoir devoir apparaître. Une bande de Français.
Comme ça, ben oui.
Alors donc, il ne se méfiait pas, la porte était ouverte, les Français attaquent, et le temps que les Anglais referment la porte, il n'y a que Pierre Lemoine d'Iberville qui est entré à l'intérieur du fort. Donc, il se défend seul pendant quelques minutes jusqu'à ce que le reste de troupes force la palissade anglaise et le rejoignent et conquièrent le fort. Mm-hmm. Et ensuite, il va capturer un navire dans un autre poste, celui de la rivière Rupert. Il s'illustre à ce moment-là par son intrépidité, son courage, sa capacité de se défendre et d'attaquer. Oui. Et donc, par la suite, comme je disais, c'est plutôt comme un marin, encore avec la même intrépidité, qui va réussir à s'illustrer et à vaincre les Anglais. Donc, conquérir encore une fois les postes anglais qui, à cette époque-là, passent des Anglais aux Français, des Français aux Anglais. Mm-hmm. Donc, il y a une forte rivalité et chacun tient absolument à reconquérir les forts. Et d'Iberville y retourne à plusieurs reprises et réussit à chaque fois à reconquérir les forts anglais, mais de façon non définitive.
Oui, tout à fait. Et même en infériorité numérique, souvent, hein, ce qui fait qu'on remarque, oui, ses talents de navigateur. On le dit aussi, puis je le disais dès le départ, hein, vindicatif et sans pitié, cruel aussi, il va mener un raid assez cruel dans la colonie de New York.
Oui, alors au retour d'une des expéditions victorieuses à la baie du Tson, il revient à Québec et là, il y a eu le raid sur la Chine. Donc, il y avait une paix un peu étrange, un peu incertaine entre l'Angleterre et la France pendant plusieurs années, au moment où Pierre d'Iberville attaque le fort à la rivière Moose. Donc, c'était une période vraiment, disons, sournoise entre les deux puissances. Et au retour de cette expédition-là, la guerre est officiellement déclarée et les Anglais qui l'ont appris le premier ont déclenché une attaque surprise sur la Chine par les Iroquois, avec une alliance avec les Iroquois. Donc, Frontenac sait que la guerre fait rage en Europe et qu'il n'y aura pas de renfort des troupes françaises. Alors, il décide d'utiliser la même tactique, c'est-à-dire une attaque à l'amérindienne, à la manière des Autochtones, donc sournoise, sur le principe de l'embuscade. Et les gens qui peuvent mener cette attaque-là sont des Canadiens qui connaissent les Autochtones, qui connaissent les tactiques autochtones et qui sont habilités à s'allier avec les Autochtones. Ils connaissent les langues, ils connaissent les mœurs. Et donc, Pierre Lemoine d'Iberville fait partie des officiers qui commandent la petite troupe d'une centaine, 100-125 combattants, pour la plupart canadiens et pour le reste des Autochtones. Et ils s'en vont jusqu'au village frontalier de Schenectady, Corlaer. et il se glisse à l'intérieur du village qui est sans défense ou ne se méfie pas encore d'une possible attaque. Donc, il se glisse dans le village à la faveur de la nuit et à l'aube, il déclenche une attaque sauvage, une attaque féroce, oui. avec les cris de guerre et tout ça, avec quelques dizaines de personnes tuées, quelques dizaines de prisonniers et une cinquantaine de rescapés. Donc, il laisse la vie sauve à une partie de la population pour qu'ils puissent témoigner de l'attaque féroce et de la victoire et déclencher une certaine frayeur oui. par rapport à aux possibilités de revanche ou d'attaque en provenance de la Nouvelle-France.
Oui, tout à fait. Et ça va arriver à quelques reprises comme ça. Il va s'en prendre, oui, bon, aux soldats, mais également aux villageois. Ce fut le cas à Terre-Neuve également, là aussi, hein, dans le but de semer la peur et la terreur. Mais j'en reviens à ses talents de navigateur puis sa réputation qui le précède. Et on raconte ses exploits un petit peu partout, ses exploits militaires, même à la cour de Versailles, hein. Si bien qu'on décide, beaucoup plus tard, donc, de lui confier l'exploration de la Louisiane. Pourquoi? Est-ce que c'est le roi qui insiste pour qu'il explore la Louisiane ou c'est plutôt son projet à lui?
Ben, ça revient un peu à ce que Guy Frégo mentionnait, c'est-à-dire que Pierre Lemoyne d'Iberville est l'héritier, en fait, d'une conception qu'ont développée les praticiens, ceux qui voyagent dans les Grands Lacs, ceux qui s'allient directement avec les Autochtones, qui recueillent les informations que leur donnent les Autochtones sur le continent nord-américain. Donc, des gens comme Radisson, Nicolas Perrault, Charles Lemoyne et ses associés qui font de la traite de fourrure dans les Grands Lacs. Ces gens-là comprennent le continent et comprennent qu'il y a une possibilité comme d'encercler ou de limiter l'expansion des colonies américaines sur la côte de l'Atlantique. Et c'est une façon pour eux d'envisager la possibilité de résister au nombre, parce que les colonies anglaises sont beaucoup plus populeuses. Et donc, il y a des Canadiens, dont fait partie la famille Lemoyne, qui savent que en devenant maître de la traite de fourrure à la baie du Son, dans les Grands Lacs, sur le Mississippi et possiblement dans le golfe du Mexique, puisqu'on connaît l'embouchure du fleuve Mississippi dans le golfe du Mexique depuis La Salle, 1686, je crois. Et donc, ces gens-là, Pierre Lemoyne d'Iberville, à la cour, proposent d'encercler les Anglais. Oui. Et ce projet-là est acheté. Ni plus ni moins, par les gouvernements français. Donc, ils disent, effectivement, si on complète l'espèce de prise en tenaille des colonies anglaises...
L'espèce de croissant, si on veut.
Oui, de croissant.
C'est ça.
En allant fonder un poste de traite français ou un poste militaire français à l'embouchure du Mississippi, on va connecter la Nouvelle-France, les Grands Lacs, le Mississippi et les colonies françaises dans les Antilles.
Oui. Donc, c'est ambitieux quand même, à partir de la baie James-Baie-du-Thon jusqu'aux Antilles. Oui, disons qu'il y a quelques kilomètres. Hein? On va écouter la version qu'on en faisait le 24 juin 70, jour de la Saint-Jean, reconstitution d'un récit historique qui met en scène Madame de Maintenon et Louis-Philippe de Pontchartrain, donc ministre de la Marine de Louis XIV, reconstitution théâtrale au sujet de Pierre Lemoyne d'Iberville.
Madame, j'ai reçu la visite de Pierre Lemoyne d'Iberville, ce jeune Canadien qui a si bien servi le roi en ses colonies.
Tous nos jeunes seigneurs, à commencer par les petits-fils du roi, parlent des exploits de ce corsaire et du navire le Pélican. Mais Monsieur d'Iberville est venu chercher sa récompense.
Il veut le gouvernement de Terre-Neuve.
Et vous ne voulez pas le lui donner?
Madame, permettez-moi de vous faire souvenir que le roi a décidé de n'accorder ses postes qu'à des Français.
Et vous ne voulez pas faire une exception en faveur de Monsieur d'Iberville?
Madame, j'ai mieux à lui offrir, mais pour cela j'ai besoin de vos bons offices auprès du roi.
Si je ne vous connaissais pas si bien, j'aurais peur.
Il s'agit de la Louisiane, cette terre qui reste un mystère pour nous, bien qu'elle porte le nom du roi.
Monsieur, vous voulez envoyer le corsaire canadien en Louisiane?
Madame, de nombreuses personnes demandent à être chargées d'une expédition en ce pays et des personnes en qui je n'ai aucune confiance. C'est pourquoi je voudrais confier cette mission à Pierre d'Iberville.
Et ainsi, mon cher ami, vous vous débarrasserez élégamment des prétentions de notre beau corsaire.
peut-être pour la plus grande gloire du roi, madame.
Voilà, l'interprétation qu'on en faisait, se débarrasser de lui, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. Le but étant d'aller explorer, mais surtout de tenir en tenaille les Anglais, contenir la menace anglaise avec ce fameux croissant. Pour ça, cela dit, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qu'il n'a pas. Hein. Et d'autant plus qu'il est affaibli par la maladie quand il commence son exploration donc, dans le sud, la Louisiane. Il meurt à Cuba en 1706 à l'âge de 44 ans. Sa mort, d'ailleurs, est entourée de mystères. On ne sait pas exactement de quoi il meurt.
Non, probablement des fièvres. Ça peut être un mélange de maladies et d'épuisement. Donc, c'est assez mystérieux puisque il n'était pas supposé mourir à cet endroit-là. Donc, on n'anticipait pas son décès de façon aussi rapide.
Oui. À toute sa vie, il a guerroyé avec les Autochtones, signant des alliances ici et là, hein, alliances militaires, mais alliances commerciales également. Quel genre de relations il entretenait avec les Autochtones?
On a peu de détails sur par rapport à d'autres explorateurs ou médiateurs comme Nicolas Perrault ou Radisson. Donc, on ne sait pas exactement comment Pierre Lemoyne d'Iberville se comportait avec les Autochtones, mais on sait très bien qu'il est un digne représentant de l'approche canadienne. Donc, c'est-à-dire une reconnaissance de l'importance des Autochtones et de l'importance de nouer une relation, disons, de qualité pour qu'elle soit durable et fiable avec les Autochtones. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelles sont les attentes et les besoins des Autochtones et il faut négocier sur une base assez équilibrée.
Oui.
Et à ce moment-là, on peut développer des alliances assez solides et assez durables avec les Autochtones. Ça a été le cas en Nouvelle-France. L'alliance a duré plus d'une centaine d'années. Après l'épisode missionnaire héroïque, là, qui a été plutôt un échec, mais après ça, les attentes et les objectifs des Canadiens sont plus réalistes et on réussit donc à établir de bonnes relations stables et durables avec des hauts et des bas, mais en gros, les Canadiens sont habiles avec les Autochtones et les Autochtones font confiance aux Français par rapport à tous les autres Européens qui sont présents dans les deux Amériques.
Oui. Pendant plus d'un siècle, un vaste territoire commercial, vous l'avez bien décrit. En tout cas, il occupe une place à part dans notre imaginaire. On en a fait, à une certaine époque, un héros national. Quoique, à la fin de sa vie, sa réputation, la réputation de sa famille a été ternie. On l'a accusé de corruption, parce qu'il faut voir aussi, hein, c'était un corsaire, un flibustier. Donc, lui, oui, était autorisé par le roi. Mais s'approprier une partie du butin, donner la moitié au roi, garder la moitié pour lui et pour son équipage, pour les garder motivés. Mais est-ce que sa rage de conquérir comme ça était dictée par des intérêts personnels?
Certainement, à la fin de sa vie, la dernière expédition, qui est une très grosse expédition avec 12 navires et 2000 hommes, avec des moyens importants pour consolider la présence française à l'embouchure du Mississippi. Alors, cette expédition-là est rongée par la corruption et on a vraiment l'impression que, finalement, d'Iberville a en main la possibilité de s'enrichir. Là, il y a vraiment beaucoup de moyens alentour de lui et il en profite.
En tout cas, un parcours assez fascinant pour un personnage qui l'est tout autant, Pierre Lemoyne d'Iberville. Mon invité, je rappelle, Martin Fournier, il est historien spécialiste de la traite des fourrures et des relations entre Français et Autochtones. Aussi romancier, auteur de plusieurs ouvrages sur un autre personnage fascinant, Radisson. Merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.